comme cela, dans les eaux du baptême. Je vous rassure, vous ne rentrez pas dans l'eau avec. Hein. On accompagne jusqu'au bord et ensuite on va accompagner Louane et Lucie dans ce temps de baptême, de décision. Alors j'avais préparé, dans la semaine, je m'étais préparé pour la prédication et j'avais une très belle prédication. Et j'avais décidé de prêcher sur le baptême en rapport avec l'itinéraire du peuple d'Israël, vous savez, qui était en esclavage, et puis qui a été libéré de l'esclavage au moment où, à la 10e plaie, les premiers-nés sont morts, et que le sang était mis sur les linteaux des portes, image du Christ qui était crucifié. Puis ensuite, ils allaient jusqu'au Sinaï, et puis là, ils recevaient la parole de Dieu, en tout cas la loi, les 10 commandements, et c'était la confrontation du peuple. Et en Israël, il est dit que Israël devient un peuple au moment où il reçoit les 10 commandements, puis après, ils franchissent le Jourdain, c'est le baptême du peuple d'Israël, qui rentre dans les promesses de Dieu. Oh, c'était une belle prédication. Ah, je vous assure, je l'ai préparé, je trouvais ça formidable. L'idée, je me félicitais moi-même. Et puis, j'ai commencé à écrire cette prédication. Et puis, en introduction, je tapais sur mon ordinateur et je disais, voilà, nous allons accompagner Louane et Lucie dans les eaux du baptême. Puis tout à coup, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de vérifier. Vous connaissez, pour ceux qui me connaissent, ma manie d'aller chercher le sens des mots, l'étymologie, etc. Puis je suis allé par curiosité voir les prénoms. Et quand je suis allé voir les prénoms, tout à coup, je me suis dit, c'est pas possible. Elles l'ont fait exprès. Elles ont décidé de prendre leur baptême le même jour. C'était prémédité. C'est ça. Louane, Lucie, vous aviez décidé de... Non ? Non ? Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais changer ma prédication, mais je me suis dit, il faut que je me dépêche de choper les parents à l'arrivée pour savoir pourquoi ils ont appelé leur fille de ce prénom-là. Alors j'ai attrapé Patricia avant le culte parce que je me suis dit, c'est quand même une des bases de la prédication, il faut que je vérifie quand même. J'ai dit, mais pourquoi vous avez appelé votre fille Lucie ? Il n'a pas la même réponse. Mais en tout cas, ça marche quand même. Et Patricia me dit, la première réponse qu'elle m'a donnée, c'est à cause de la première femme. Et je cherchais, je dis, mais quel rapport avec Ève ? Alors je cherchais, puis elle m'a dit, mais non, Lucie, vous savez, cette femme, ce squelette qui a été découvert en Éthiopie par Yves Coppens. Et c'est vrai qu'en regardant Lucie, les ossements, je me disais, ah ouais, peut-être, je sais pas. Puis après, je suis allé voir Jean-Luc, je dis, mais, parce que Patricia n'est pas encore arrivée, je me dépêche, je dis, mais Jean-Luc, pourquoi vous l'avez appelé Louane? Puis là, il m'a donné une explication aussi familiale, on aimait bien certains prénoms, Louise, Anne, etc. Hop, contraction. Sauf que, quand on regarde l'étymologie de ces deux prénoms, Louane, dans l'étymologie celte, ça veut dire richesse et lumière. En celte. Et que Lucie, en latin, ça vient de lux, lumière. Donc les deux qui prennent le baptême ce matin annoncent déjà la couleur. Nous serons une lumière. Nous sommes une lumière et nous serons la lumière de Christ au milieu des hommes. Alors je me suis dit, bon, je ne peux pas passer à côté. Donc j'ai remis dans ma case l'histoire du peuple d'Israël et j'ai repris ce verset de l'évangile de Matthieu. C'est quasiment la première, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce côté fortuit, je pense, mais en même temps tellement beau. La première prédication de Christ dans l'évangile de Matthieu, après les béatitudes, qui suit les béatitudes, c'est vraiment la première prédication quand il s'adresse aux hommes et aux femmes qui l'entourent et dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Et j'ai trouvé que ces deux prénoms, ces deux jeunes filles qui aujourd'hui s'avancent en disant « Je veux prendre mon baptême », portent bien leur nom. Richesse et lumière est lumière. Alors vous êtes la lumière du monde. C'est une proclamation que Christ nous donne en disant « Vous êtes la lumière du monde », pas collectivement, entre guillemets seulement, mais individuellement. Parce qu'en fait, avant même que Lucie et Louane décident de s'engager par les eaux du baptême, avant même, je dirais même, que leurs parents se triturent les méninges en se disant « Comment on va l'appeler ?» Dans le cœur de Dieu, vous étiez déjà une lumière. Il y avait déjà en vous, dans la pensée de Dieu, une richesse déposée, comme pour chacun d'entre nous. On n'est pas lumière parce qu'on a reçu Christ. On est lumière parce que Christ, en disant un jour « Tu seras », a fait de nous des êtres uniques, objets de l'amour du Père. Nous sommes déjà porteurs de cette lumière. Et si nous regardons bien, même ceux qui ne connaissent pas encore Christ, regardez-les, votre collègue de travail, qui n'est pas forcément croyant, dans votre famille. Regardez, il y a à l'intérieur cette lumière de Dieu qui existe. Cette lumière qui dit « Je suis un être voulu par Dieu, aimé par Dieu ». Et c'est parce qu'il y a cette lumière que Christ a dit « J'ai pour toi un amour infini. Tu es quelqu'un de précieux pour moi. Alors tu es tellement précieux que je vais accepter de monter à Golgotha, une croix sur les épaules, pour donner ma vie. Cette lumière qui est en toi, cette lumière de vie qui t'a été accordée, cette richesse qu'il y a en toi, même si tu ne me connais pas encore, eh bien, je vais donner ma vie afin que cette lumière puisse briller durablement et que cette existence, cette dignité que j'ai déposée en toi demeure. Comme un enfant est bien souvent aimé par ses parents avant même sa naissance et qu'il reste pour eux leur enfant quoi qu'il arrive, Dieu nous considérera toujours comme son enfant, quels que soient nos positionnements. Et il nous donne d'être source de lumière pour le monde. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas une leçon de morale en disant « faut que vous soyez meilleur, faut que vous brilliez plus ». Comme s'il disait « Vous avez reçu la lumière de Dieu, transmettez-la ». Non, il dit « Vous êtes la lumière ». Vous êtes déjà lumière, que votre lumière, d'ailleurs, il dit dans ce verset, que votre lumière brille sur ceux qui vous entourent. C'est pas que ma lumière qui est en vous, non, c'est votre lumière, ce qu'il y a en vous de bon, de beau, et que Dieu y a déposé. Quelqu'un me disait, il y a des personnes, ou une personne dans ma vie qui n'est pas forcément facile à côtoyer, etc., qu'est-ce que je dois faire? Bénis-la, aime-la, fais briller ta lumière sur elle. Sur cette personne-là, et tu verras que ta lumière brillant sur cette personne accomplira son œuvre. Tu aimeras ton prochain. C'est cette lumière-là qu'il nous est demandé de transmettre. Tout homme, toute femme, en un sens, est une lumière indispensable au monde. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Votre lumière est indispensable au monde, là où Dieu vous a placé. On sait que l'homme est capable de faire beaucoup de mal et que le mal existe dans la nature de l'homme. Mais il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Et juste avant, dans ce passage de l'évangile, il dit, vous êtes le sel de la terre. Alors le sel, on sait que ça donne de la saveur. Parfois on en met un peu trop, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est aussi un des meilleurs moyens que l'homme ait connu pour conserver les aliments. Hein, la saumure, etc. C'était avant le frigo, hein, vous savez, c'était le meilleur moyen de préserver la nourriture. C'est grâce au sel, par exemple, que le fromage est si bon et qu'il se conserve. Hein. Être le sel de la terre, c'est être dans le monde et puis mettre en valeur et conserver le meilleur de nous dans ce monde et de donner à ce monde qui est perdu, qui peut se corrompre, une possibilité d'être meilleur. Il ne faut pas beaucoup de sel dans un fromage pour le conserver. Hein, on dit que s'il n'y avait que 5% de sel qui soit présent, ça suffirait. Il ne faut pas beaucoup de grâce et d'amour, de lumière et de sel dans ce monde, si nous le sommes, pour préserver ce monde et lui donner une autre qualité. C'est utile d'avoir du sel en soi-même, c'est dans l'évangile de Marc. Chapitre 9, verset 50, c'est une capacité à voir la part lumineuse de l'homme sans se laisser contaminer parce qu'il peut y avoir de négatif en lui. Capacité à aimer à notre tour, car c'est bien d'amour dont il est question ici. Être la lumière du monde. Jésus ne nous oblige pas à saler et à briller, mais il dit que ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage pour le monde si nous ne le faisions pas. Ce serait tellement dommage si, avec la lumière que nous sommes, nous n'apportions pas un tant soit peu de lumière, de sel, là où Dieu nous place. Apporter cette lumière dans l'obscurité du monde. Et comme le monde a besoin de cette lumière, de cet amour que Dieu a placé dans nos vies. Or, le monde, ça ne commence pas en Afrique. Même si l'Afrique a besoin en ce moment de notre compassion, de notre soutien, de notre amour, ça commence là où nous sommes, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents. Alors il utilise, Christ, cette image, être comme une ville sur une montagne. La foi de Louane, la foi de Lucie, de ces deux lumières, cette foi, elle est présentée comme une ville sur une montagne. Une ville sur une montagne, c'est une ville plus sûre parce que de là-haut, on voit plus loin et plus clairement ce qui peut arriver. Une ville sur une montagne. Hein ? Et donc, par la foi, Dieu peut nous permettre de voir plus clair et de mieux savoir comment nous décider, comment faire nos choix. Vous serez une ville comme une ville sur une montagne, avec cette lumière qu'il y a en vous, qui peut briller et qui peut vous donner de la lumière aussi pour choisir, une lumière pour vous protéger, pour avancer dans votre existence. Mais une ville sur la montagne, c'est aussi une ville que l'on voit très loin. Et par la foi, Dieu nous donne aussi de mieux rayonner autour de nous, de notre lumière personnelle, et quelque part d'embellir la vie de ceux qui sont autour de nous. Alors je souhaite que Louane, Lucie, soit comme une ville sur la montagne, ça veut dire aussi en hauteur, s'élever pour briller. Alors le baptême, ce n'est pas la fin. Comme pour un couple, le mariage, ce n'est pas une fin, c'est un commencement d'une marche, d'une vie. Donc, en sortant du baptême, je racontais à Laurent, quand j'étais au Danemark, j'avais un très vieux professeur qui était le fondateur de l'église apostolique au Danemark, et puis c'était un des plus grands notables de la ville de Kolding, et il rencontrait un autre notable qui ignorait qu'il vivait avec Dieu et qu'il était chrétien et pasteur de la ville de Kolding, qui fondait un collège biblique. Et puis ce notable le regardait, et puis ils étaient dans Kolding, et puis il montrait l'église et puis le collège qui était en face, et puis il dit ouais, il y a des gens étranges dans notre ville. Alors Siegfried Beck, ce pasteur en question, dit « Ah bon ?» Il dit « Ouais, vous n'êtes pas au courant ?»« Bah non, ils se disent chrétiens, ils sont étranges. » « Et en quoi est-ce qu'ils sont étranges ?»« Oh, plein de choses. Entre autres, ils baptisent les gens dans l'eau. »« Ah bon ? Et qu'est-ce qui est étrange ?»« Bah, ce qu'on raconte, il paraît que ils plongent les gens dans l'eau et ils attendent jusqu'à ce qu'il y ait une colombe qui descende. » Alors Siegfried Beck disait « Ah oui, c'est étrange. Rassurez-vous, On plongera Louane et Lucie, mais on les relèvera. Parce que ce n'est pas la mort qui est voulue, elle est une image. Le baptême est une image de la mort du Christ, mais aussi de sa résurrection. Et l'idée, c'est que vous deveniez des lumières qui brillent sur la montagne. Mais aussi, la deuxième image dans ce passage de Matthieu, c'est d'être un chandelier, une lampe sur un chandelier. Et cette deuxième image est encore plus intime, dans le sens où elle dit « Vous êtes quelqu'un de précieux qui avait en vous cette lumière et je vous propose que cette lumière-là soit comme un chandelier au milieu de vos proches. » Et en plus, il dit ceci, il dit « sur le chandelier ». Dans la culture juive, le chandelier, ça fait forcément référence à la menorah. La menorah, c'était un chandelier à sept branches qui se trouvait dans le temple et qui brillait en permanence devant Dieu. Le chandelier, la présence de Dieu au milieu de son peuple, mais aussi la présence du peuple au cœur de Dieu, dans le temple, dans le lieu saint. Cette deuxième image rejoint donc l'histoire de la ville. Dieu est là au plus profond du meilleur de nous-mêmes. Dieu est là pour nous soutenir, pour nous élever, afin de faire que ce que nous sommes, ce qu'il a voulu de nous, avant même que les parents se réunissent, Dieu avait déjà pensé Louane et avait déjà pensé Lucie pour dire « Voilà la lumière que je propose au monde en vous donnant la vie. » Alors, il y a parfois des choses qui peuvent nous empêcher de briller. Ici, il est dit que nul ne doit mettre la lampe sous le boisseau. Et le boisseau, en fait, c'était une mesure, hein, une sorte de contenant, ce qu'on dit un petit seau, qui servait à mesurer les choses. Nul ne peut mettre la lumière sous le boisseau, c'est-à-dire un récipient qui sert à mesurer. Ah ouais, il y a parfois des choses qui peuvent nous empêcher de briller. C'est quand on cherche à cacher cela ou à faire dépendre de notre lumière de la mesure du regard des autres. Est-ce que tu es bien comme le monde attend que tu sois, comme tes parents voudraient que tu sois? Est-ce qu'il y a ce boisseau-là qui peut t'empêcher de briller? Est-ce qu'il y a cette mesure-là? On peut mesurer la taille. Elle est un petit peu plus grande que Lucie quand même. T'exagères, Patricia, moi je la trouve. Lucie, t'es toute petite, 1m30. Est-ce qu'on mesure? On se mesure en fonction du regard des autres, des exigences des autres, ou bien est-ce que l'on est en capacité de se dire que c'est Dieu qui dit « Tu as un prix infini pour moi. Il n'y a pas de limite à l'amour que j'ai pour toi. Il n'y a pas de mesure pour te définir et te limiter dans ce que tu es et ce que tu dois être. Et cette lumière que tu as, elle ne dépend d'aucune mesure extérieure. » Il n'est pas bon de chercher à comparer, à peser nos lumières différentes. « Oh ouais, lui brille plus que moi, il faudrait que je fasse comme lui, ou que je sois comme... » Non, soyons la lumière que Dieu propose au monde, et soyons cette lumière sur le chandelier, au milieu de ceux où Dieu nous a placés. Et je terminerai par ce verset, et je suis dans les clous, Michel, je suis à 20 minutes. « Éternel, que ton amour est élevé. Tu es la source de la vie, et par ta lumière, nous avons reconnu la lumière. » C'est le psaume 36, 9. À Louane, à Lucie, je dis, vous êtes la lumière. Alors vous l'êtes déjà parce que vous portez ce nom-là. C'est quand même une coïncidence merveilleuse. Vous êtes lumière et richesse et lumière. Gardez quand même un petit peu d'humilité, mais vous êtes cette lumière-là. Comme nous sommes tous, pour notre part, une lumière, nous avons en nous la lumière de Dieu et une espérance que cette lumière puisse briller au milieu des hommes. Et je voudrais juste terminer en remerciant Lucie. Et je crois que je peux parler au nom de Francine, remercier aussi Louane pour la qualité des échanges que nous avons eus avec vous dans cette préparation au baptême. Moi, j'ai été, mais alors, béni. Moi, je suis prêt à faire des préparations au baptême quand vous voulez, parce que qu'est-ce que ça nous apporte? J'ai eu en face de moi, et je sais que Francine m'en a partagé aussi un peu, des jeunes filles qui ont vécu et vont en témoigner, quelque chose de profond, de riche. Et ça m'a fait un bien fou de partager cela. Alors, je vais laisser la place au témoignage pour que vous disiez aussi ce que nous avons eu le privilège d'entendre. Amen.